Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Chers auditeurs, vous êtes là. Moi aussi, nous avons survécu encore une nouvelle année. Bonne année, évidemment, et bienvenue dans cette émission qui est préparée aujourd'hui par Corinne Valente, Laure Grand-Besançon et Jeanne Paravert, réalisée par Eliane Girard et David Leprince, et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Clément Berman. La gourmandise ce matin, c'est le mot apotropaïque, qualifiant les objets, formules ou rites utilisés pour conjurer les influences maléfiques et les mauvais esprits. Le mot vient du grec apotropéine, qui signifie détourner, et s'applique autant à une amulette qu'à un geste ou à un sortilège. Si l'heure qui vient conjure le spleen, même un bref instant, l'émission pourra humblement s'enorgueillir de cette vertu. Enchanteur, né à Luluabourg, aujourd'hui Kananga, au moment où la RDC portait le nom de Congo belge, notre apothicaire de l'âme se destine vite à la culture et à la réhabilitation du merveilleux. Il s'initie à la magie à 15 ans suite à un tour exécuté par un camarade de judo et cultive une fascination pour la triche, inspirée par le personnage de James Bond. Notre homme maîtrise rapidement le monde de l'artifice et excelle dans l'illusionnisme. Les cartes et les cerveaux lui livrent leurs secrets, le mentaliste et bizarre magicien façonne ouvrages, spectacles et vidéos suscitant la reconnaissance. En parallèle, il collectionne les artefacts liés à la magie et à son histoire. Objets hantés, outils divinatoires ou grimoires de sorcellerie peuplent son fabuleux musée d'histoire surnaturelle bruxellois, le Surnatéum. Le passionné conservateur est incollable sur tout ce qui concerne le spiritisme, l'ésotérisme, l'occultisme, l'histoire secrète, la cryptozoologie, le chamanisme, les voyages dans le temps ou les créatures des ténèbres. Il prête régulièrement des pièces à d'autres musées et continue de développer son cabinet de curiosité fantastique avec une rigoureuse approche artistique, historique et scientifique. Ajoutons à cela une ceinture noire de judo et la dispensation de cours d'éducation physique et on en a une idée approximative du personnage tant il recèle de facettes. Bonjour Christian Schellmann.
Bonjour Eva.
Christian Schellmann, les magiciens sont-ils des êtres mélancoliques et vous-même l'êtes-vous ?
Pas vraiment. Je pense que le magicien... Il y a deux types de magiciens, il y a l'illusionniste qui essaye de faire des tours et il y a le magicien qui rêve de se plonger dans un monde qui apparaît fantasmagorique au départ. Moi je mélange un peu les deux et finalement j'ai créé le monde dans lequel j'avais envie de vivre.
Vous n'êtes pas sujet à des accès de tristesse parce que je me dis toujours l'illusionniste met en scène le merveilleux, mais lui connaît les trucs et quand on connaît les trucs on n'est pas un peu désenchanté ?
Déjà, il peut apprécier les tours des autres, il peut apprécier ce qu'il y a derrière, il peut apprécier leur culture, leur savoir-faire. Non, pas vraiment. Donc, l'illusionnisme, comme n'importe quelle activité artistique, peut parfaitement combler n'importe quelle position mélancolique ou attitude mélancolique.
C'est votre remède à la mélancolie numéro 1 ?
Oui, parce que je ne me suis que rarement mélancolique.
C'est naturel chez vous ?
Oui, puis c'est tellement complexe, il y a tellement de choses à voir, à étudier, à rechercher, que je serai encore occupé à chercher au moment où je rendrai mon dernier soupir.
Oui, car Christian Schellmann, vous êtes sans cesse dans la recherche comme un éternel étudiant, il y a quelque chose de faustien presque dans cela.
Oui, absolument.
Alors on va aborder vos remèdes, vous allez convoquer beaucoup de magie dans vos remèdes. Cocteau, des trésors, du changement, André Delvaux, Jean Rey, Jacques Brel... Peter Gabriel, Kate Bush et le présent. Juste après, Mark Ronson et Anderson .Paak. Then there were two. And then there were two. Right now we have to stop somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you'd leave me blue. You come around out of nowhere. Just when I thought you'd leave me there. You came back cool. Such a master when I'm not near you. But together we can't stop looking in the mirrors. Right now we have to start somewhere. How far to go, I Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de l'illusionniste Christian Schellmann.
Je vais vous donner lecture du jugement après instruction. Nous, tribunal d'enquête, décidons de mettre la mort d'Orphée et ses aides en liberté provisoire. Orphée, libre, sous réserve de ne jamais dire ce qu'il a vu. Eurydice, libre de revivre dans l'autre monde sous condition qu'Orphée ne la regarde jamais. Un seul regard sur elle, il la perdra pour toujours.
Mais...
Silence !
Voici votre femme.
Prenez garde !
Ne la regardez pas !
1950, Orphée de Jean Cocteau, film adapté de sa pièce, créé en 1926 avec Jean Marais et Maria Cazares. Christian Schellmann, vous avez choisi Cocteau, le poète et artiste total, pour avoir, je cite, réussi l'acte magique absolu, incarner un mythe, celui d'Orphée.
Oui. Parce que je pense que l'acte magique absolu pour moi, c'est ça, c'est d'arriver à devenir un mythe, à prendre sa place et à réellement le ramener dans le réel, en fait. Pour moi, le monde magique se situe dans le monde du mythe. Et faire cette transition d'amener ce mythe dans notre réalité, pour moi, c'est l'acte absolu. C'est pour ça que lorsque j'ai réfléchi sur quel aurait été le, ou quel était le meilleur magicien pour moi, au XXe siècle, j'ai choisi Cocteau, en fait. Il y a aussi beaucoup à voir avec son fabuleux La Belle et la Bête, qui est, bon, ben, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Oui, ben, en gros, c'est ça. Il est devenu Orphée, en fait.
Cocteau.
Cocteau. Et son testament le montre bien. C'est vraiment le testament d'Orphée.
Donc, vous avez d'ailleurs extrait une phrase dans l'un de vos livres, Légendes urbaines. Ne vous obstinez pas, un peintre fait toujours son propre portrait. Cette fleur, vous n'arriverez jamais à la peindre.
Ouais, il dessine toujours son propre visage dans le testament d'Orphée. Donc, il essaye de peindre une fleur dans un pot, mais c'est lui qui dessine. Ce qui est en fait l'acte de l'artiste qui ne parvient jamais à définir la réalité autrement que par sa propre vision. C'est tout l'intérêt de savoir que la réalité n'existe donc pas.
Si seulement. Il y a une chose qui me frappe en ayant vu Orphée de Cocteau pour l'émission. À un moment, on dit à Orphée, vous cherchez trop à comprendre les choses et c'est un grave défaut. Et ça, Christian Schellmann, c'est quelque chose qui revient dans presque tous vos remèdes, comme on va le voir au cours de cette émission. Les questions qui restent sans réponse, c'est la magie pure, c'est-à-dire on ne donne pas d'explication.
Il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la mécanique du réel doit s'arrêter pour laisser passer ce qui est purement magique, c'est-à-dire le poétique. Donc le poète qui est dans ce cas-ci Cocteau avait parfaitement pigé ça. Donc,
Cocteau qui est poète et qui est aussi magicien littéralement puisqu'il il est à la base de beaucoup d'effets spéciaux qu'il a lui-même inventés. Et je pense par exemple dans son Orphée quand on traverse les miroirs où c'est en fait des bains de mercure qu'il a mis au point. Ça c'est vraiment l'acte magique.
Absolument,
aussi.
Absolument, tout à fait. C'est-à-dire que de nouveau on manipule le réel jusqu'à ce que le réel se paralyse de lui-même. Donc on arrive au bout d'une logique pour se dire qu'à ce moment-ci, il n'y a plus d'explication possible. Seul le poétique ou l'imaginaire peut commencer à fonctionner.
Mais Christian Schellmann, il y a quelque chose qu'on retrouve dans tout ce qui tourne autour de la magie, c'est les lois de la physique suspendues. Et après tout, ce qui rend le plus mélancolique l'homme depuis la nuit des temps, ce sont les limites humaines, c'est la mort, c'est la pesanteur. L'acte magique fait fi de tout cela. Quel est votre rapport à cela? C'est donc que le réel...
Dès le départ, l'homme considère le milieu dans lequel il se trouve comme un monde magique. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas au départ le mécanisme des saisons, donc il va faire intervenir les dieux. Il ne sait pas comment les manipuler, comment survivre à un hiver, comment faire pousser les plantes. Petit à petit, ça va se mettre en place, mais parce qu'il n'a pas d'explication qui tienne la route, je vais dire, qui peut reproduire physiquement, il va commencer à leur donner les noms des dieux. Donc, et ces dieux ont un aspect positif, un aspect négatif. Ils peuvent influencer favorablement votre existence ou votre destinée, mais aussi très défavorablement si vous ne leur plaisez pas. Et donc, le monde est magique par essence. Le rationalisme va mettre un ordre là-dedans. Mais quand on parle de fantômes et de démons, déjà dans l'Antiquité ou même, je veux dire, presque avant, on parle de maladie aussi. Je veux dire, quelqu'un s'installe quelque part, sa famille tombe malade, il ne sait pas pourquoi. Il ne connaît pas les virus, il ne connaît pas les microbes, il ne connaît pas les pollutions, il ne connaît pas les radiations. Donc toutes ces influences sont totalement invisibles, mais vont quand même finir par tuer sa famille, et peut-être lui avec.
Vous avez, Christian Schellmann, écrit un ouvrage, l'hypothèse vampirique, oui, où vous parlez de l'origine des vampires. Et souvent, on pensait que la peste ou certaines maladies étaient dues à des revenants.
Oui, oui, tout à fait. Mais la peste, non seulement à des revenants, mais à des dieux. Hein. Le dieu de la peste par essence à Rome, c'est Apollon. Hein.
Ah oui.
Ah oui. Ah,
parce que moi, je connaissais les qualités d'Apollon, mais j'avais rarement entendu parler de lui en négatif.
On pense toujours aux qualités d'Apollon, mais Apollon, il a un arc avec lequel il tire des flèches, et ces flèches apportent la peste. Et d'ailleurs, il y a eu de terribles mouvements après la peste dans les guerres du Péloponnèse, où les Grecs ont dû, comme ils avaient perdu énormément de soldats, ils ont dû faire un rituel, entre autres sur une de leurs îles, où ils ont évacué tous les morts qui s'y trouvaient, parce qu'on ne décédait sur ces îles sans insulter Apollon.
Christian Schellmann, vous avez découvert la magie bizarre, comme vous l'appelez, en entrant dans un magasin de pseudo-sorcellerie, vous avez trouvé deux petites poupées d'envoûtement.
Oui, ça c'était les premiers objets, c'était deux d'Agide, une blanche et une noire.
D'Agide.
D'Agide, c'est le nom exact, D-A-G-Y-D-E. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus marrant d'aller piquer dans une poupée et de deviner où l'autre avait piqué que de faire des tours de cartes. Et j'ai commencé à m'intéresser au côté occulte de la magie, mais plus d'un point de vue scénaristique, plus d'un point de vue... Enfin, c'est comme ça ressemblait à ce qu'on voyait dans les films. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas ramener la magie du cinéma, mais dans le réel, et de voir si c'est possible.
Oui, parce que vous avez une grande source d'inspiration justement dans les fictions existantes. Par exemple, Harry Potter, Jean Rey, dont on va parler, Cocteau évidemment, Indiana Jones ou James Bond.
Indiana Jones et James Bond, oui. Ils sont d'ailleurs le même personnage en fait, à peu près. Indiana Jones est fortement influencé par la création de James Bond.
Et ils influencent, ces personnages de fiction influencent vos routines magiques, Christian Schellmann.
Oui, en fait... Les premiers objets, donc, c'était des poupées d'envoûtement, mais quelque chose de tout à fait moderne. Et puis un jour, je suis tombé sur un petit scarabée égyptien antique. Et là, il y a eu une sorte de révélation. Je me suis dit qu'il y avait plus de magie dans cet objet que je pouvais tenir en main que dans n'importe quel tour de carte ou d'illusionnisme. Je me suis dit que c'était accessible aussi. L'objet n'était pas excessivement cher. Et je me suis aussi immédiatement imaginé tout ce qui pouvait se passer autour des malédictions de momies, la malédiction de Toutankhamon. Et puis j'ai commencé à chercher si ces trucs avaient une base historique réelle, fausse, imaginaire, et j'ai commencé à collectionner ces objets les uns après les autres, pour en faire non seulement une collection, mais un support pour l'illusionnisme fantastique qui est ma branche.
Vous réalisez, Christian Schellmann, avec ces objets, évidemment, des tours de magie, et vous les prêtez au musée. Et c'est dans ce cabinet de curiosité extraordinaire que vous possédez à Bruxelles, dont vous êtes le conservateur, le Surnatéum, où l'on trouve des coffrets de tueurs de vampires, des osselets divinatoires, des objets hantés. Est-ce que vous croyez à tout ça? Je sais que cette question est ambiguë, car en fait, derrière le mot fantôme, par exemple, si je vous dis « croyez-vous aux fantômes, Christian Schellmann ?», vous me direz oui, puisque vous avez une définition différente de la mienne des fantômes.
Voilà. C'est comme le vampire, qui est un fantôme finalement et pas du tout un démon, ce qui pose d'ailleurs un problème. Je prends le vampire au XVIIIe siècle. Il est entre 1732 et 1755 une réalité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va mettre en doute les rapports des médecins qui déclarent le vampirisme une maladie. Et ça va poser évidemment tous les problèmes qui suivent. Donc c'est toujours une question de lieu, de rapport à l'époque aussi, et de culture finalement. Donc il n'y a pas de réel dans le sens absolu, chacun a sa forme de réel. Et donc si vous imaginez, et vous en êtes persuadé, que chez vous il y a quelque chose qui est négatif dans votre maison, un fantôme, mettons.
Moi-même.
Peut-être, et vous risquez d'en subir les conséquences, c'est-à-dire qu'il agira réellement sur votre réel.
Parce que vous vous en persuadez.
Vous vous en persuadez, mais donc votre réel n'est pas le mien. Et donc, le réel absolu, ce qui est vraiment un peu mon cheval de bataille, ne peut exister. Mais il a partout des limites. Et le tout est d'arriver à trouver la porte pour franchir ses limites.
Et vous le faites régulièrement, Christian Schellmann, et vous les brouillez délibérément, ces limites. Parlons maintenant de matière et de transformation.
Je ne peux pas dire en clair tout ce que je sais. Si je savais tout, c'est-à-dire jusqu'au bout, je ne serais même pas ici. Je serais adepte. J'aurais trouvé la pierre. C'est une belle réussite de laboratoire, parce que, attention, l'or fabriqué n'apparaît pas par traces, quasi indécelable. Non, là, c'est par dizaines de grammes. Oh, il n'y a pas de secret, je l'ai donné. J'ai donné le procédé, pas complètement, mais tout repose sur la surfusion. Quel mystère que la surfusion.
L'alchimiste Eugène Conselier au micro de Jacques Chancel en juillet 1978. Une archive passée uniquement pour le plaisir d'entendre un alchimiste à la radio, chose rare. Et parce que votre citation consolatoire, Christian Schellmann, m'a fait penser aux grandes œuvres. Omnia mutantur nos et mutantur in illis. Toutes les choses changent et nous changeons avec elles. Qu'est-ce qui vous console dans cette citation? Est-ce que c'est l'idée qu'il n'y a pas de déterminisme, pas de fatalité et donc que le champ des possibles reste ouvert?
C'est l'idée de l'impermanence.
Mais elle est terrifiante, cette idée aussi de l'impermanence. Rien n'est stable, on est impuissant.
Ben, c'est-à-dire que l'impermanence aussi implique que le temps n'existe pas, que le temps n'est pas une ligne sur laquelle on se promène, mais un point qui pulse éternellement et que tout le monde est en changement continuellement.
Mais vers la dégradation, la plupart du
non,
temps.
Non, vers le changement. Il ne peut pas y avoir de dégradation, rien ne se crée, rien ne se perd.
Mais si l'on passe d'un état jeune et sain, médicalement parlant, à un état dégradé, malade et proche de la mort, il y a un changement, mais qui est plutôt, pour la plupart des gens, jugé négatif.
Oui, mais ça, c'est un jugement.
Oui,
je veux dire,
au-delà du bien
la pomme,
et du mal.
La pomme qui est une fleur au départ, qui devient un bourgeon, qui devient une pomme, qui tombe au sol, qui pourrit et dont les graines donnent la pomme suivante, ne fait que passer un cycle.
Vous avez beaucoup changé au cours de votre existence, Christian Schellmann.
Mais je suis tout le temps en changement perpétuel et j'accepte le changement comme un état de fait. Je me suis bien amusé, je veux dire, j'ai une vie qui me passionnait, mais je continue, je pense que la suite sera tout aussi amusante. Mais je vis dans un éternel changement, je n'ai pas de regrets.
Et vous ne vous accrochez à rien?
Je ne m'accroche à rien, même si j'ai une collection phénoménale d'objets, c'est au départ, le monde dans lequel je veux vivre et les questions que je me pose sur certains phénomènes de société, en général tirés du cinéma d'ailleurs. Donc,
vous ne craignez pas la perte?
Je ne crains pas la perte.
Ni la mort?
Ni la mort, absolument. Donc je m'en fous en fait complètement. Donc,
bon, restez un peu avec nous malgré tout.
J'espère, oui. Je n'ai pas dit que je voulais partir tout de suite.
Non.
Mais par contre, j'ai une liste de gens que j'aimerais bien voir partir. Non, ok.
On s'en parlera après.
Oui.
Alors, dans un instant, on parlera d'espace-temps flou et de hantise. Le temps d'écouter un titre de la playlist France Inter, Minouche de Rachita.
Minouche, ma minouche, tu te fâches. Elle ne prend pas la mouche, ma jolie peau de vache. Quand la foudre te touche, un petit rien t'échauffe. La colère te fauche. Minouche, donne-moi ta bouche, la plus belle de toutes les bouches. Minouche, sois pas farouche, t'es ma carouche, française de souche. Je suis ton apache. Cobrons le clash, si personne ne triche. J'aime les rouges qui tâchent quand ils sortent de ta bouche. La jolie ganache, des airs de manouche.
À la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de l'illusionniste Christian Schellmann.
Je pense sans amertume aux coups durs, et j'en ai reçu pas mal, et même aux jours sombres. Je viens de parler du diable. Il ne m'est pas si antipathique. Je préfère même l'appeler l'ange méditatif. Tant je le sens parfois fraternel à nos côtés. Et pour parler comme Hamlet, disons que le reste est silence.
Archives extraites du documentaire Jean Rey le Ténébreux du réalisateur et journaliste Jean-Antoine, diffusé sur la RTBF en 2003. Comme onguent littéraire, Christian Schellmann, vous avez choisi Malpertuis de Jean Rey, roman fantastique paru en 1943. Comment décrire cet ouvrage ?
C'est un ouvrage... J'ai choisi Jean Rey parce qu'il est au centre du fantastique belge, qui est plutôt un réalisme magique, et parce que Jean Rey représente la parfaite fusion d'un esprit qui est à la fois flamand et qui s'exprime en français.
Écrivait dans les deux langues.
Il écrivait dans les deux langues, mais il pensait dans l'une, pouvait écrire dans l'autre. Et se trouve dans ce qui représente pour moi une vraie Belgique à une époque précise, une époque qui n'existe plus. Et j'ai une fascination pour Jean Rey, comme j'en ai tout autant pour Thomas Owen, Michel de Gelderode et tous les autres fantastiqueurs.
Il vous a inspiré une routine magique, je crois. Jean Rey, vous en parlez dans Compendium Sortilégionis.
Oui, le mauvais lieu. Quelle est la signification de Malpertuis d'ailleurs?
Alors, de quoi s'agit-il dans Malpertuis? C'est une maison lugubre où règnent des secrets, de l'ombre, une hantise où des murs émanent l'angoisse et des apparitions surnaturelles. De quoi est-il question?
Il est question d'un alchimiste qui a rêvé de mélanger les anciens dieux déchus aux humains et de les croiser ensemble. L'oncle Kassav, qui revient souvent dans des éléments d'histoire que j'ai écrits. Et quelque part, le surnaturel est une projection de ça. Donc, c'est aussi un lieu où se trouvent les mythes et les dieux, quelque part, sous des formes parfois complètement inattendues, modernes ou anciennes.
Et terrifiantes.
Et parfois terrifiantes, oui. Il ne faut pas rejeter le côté terrifiant de l'illusionnisme ou de la magie.
Oui, il y a des créatures avec des yeux ensanglantés, dont des yeux qui lancent des flammes, des sortes d'ombres mouvantes avec des griffes en acier. Des choses, en fait, ce qui fait le plus peur, c'est un peu comme chez Lovecraft, c'est le flou.
Lovecraft ne décrit pas ses personnages, il se base sur des mythes différents, même s'il a dû en créer quelques-uns. Et Genré est quelque chose de plus terre-à-terre, de plus primaire, je trouve encore, dans sa façon d'écrire et de narrer les histoires. Et puis il y a cette écriture de Genré qui est assez particulière. On ne peut pas dire qu'il écrit merveilleusement bien, mais il est totalement passionnant.
Et on reconnaît son style.
On reconnaît son style quasiment immédiatement.
Qui est très foisonnant, poétique aussi, onirique. Et je vous soumets juste la description de Malpertuis, qui est donc la maison dans laquelle l'oncle Kassav, qui est censé être en train de mourir, demande à tous ses proches, pour toucher l'héritage, de rester dans cette maison jusqu'à la mort de chacun. Et le dernier qui restera en vie dans cette maison aura l'héritage. Et la description de la maison, c'est ça. Sa façade est un masque grave où l'on cherche en vain quelque sérénité. C'est un visage tordu de fièvre, d'angoisse et de colère qui ne parvient pas à cacher ce qu'il y a d'abominable derrière lui. Les hommes qui s'endorment dans ces immenses chambres s'offrent au cauchemar. Ceux qui y passent leurs jours doivent s'habituer à la compagnie d'ombres atroces de suppliciés, d'écorchés vivants, d'emmurés, que sais-je encore. C'est pas très rassurant.
Non, mais la maison, quelque part, peut exister à Gand. Et mon ami André Verbruggen, qui est le plus grand spécialiste sur Genré de nos jours, me l'a fait visiter, enfin me l'a montré. C'est assez impressionnant. Elle ressemble d'ailleurs assez bien à celle de la couverture de l'édition originale du livre. C'est assez curieux.
Vous l'avez apporté, Christian Schellmann, l'édition originale. Est-ce que vous nous liriez le début?
Oui. Inventaire en guise de préface et d'explication. L'affaire du couvent des Pères Blancs ne fut pas mauvaise. J'aurais pu faire main basse sur bien des choses précieuses. Mais pour être un indévot, je ne suis pas un incroyant. Et l'idée seule de m'emparer d'objets du culte, même s'ils sont d'or et d'argent massif, m'emplit d'horreur. Les bons moines pleureront leur palimpseste, incunable et antiphonaire disparu. Mais ils loueront le Seigneur d'avoir détourné une main impie de leurs ciboires et de leurs ostensoirs. J'ai cru que la lourde gaine d'étain que je découvris dans une cachette de la bibliothèque monacale devait contenir quelques coûteux parchemins dont un collectionneur sans grand scrupule m'aurait donné gros. Mais je n'y trouvais qu'un gribouillis dont je remis la difficile lecture à des jours à venir. Ils vinrent à l'époque où le produit de mon expédition fit de moi un homme aisé aux aspirations calmes et régulières. Il n'y a que la fortune pour faire des ruffians, des gens honnêtes soumis aux lois des hommes.
Malpertuis de Genré. Et pourquoi ce passage? C'est un narrateur qui revient à certains moments dans le récit, puisqu'il y a plusieurs narrateurs, plusieurs témoignages.
Oui. C'est d'abord de l'introduction, c'est-à-dire qu'on a la notion de trésor qui se trouve dedans, la notion de sacré qui est quand même suffisamment importante que pour ne pas être brisée. Et puis il y a ce langage avec ces mots qui semblent avoir disparu, comme les palimpsestes, les incunables, les antiphonaires, qui méritent qu'on les remette un petit peu au goût du jour.
On finira peut-être par se marier, Mathias. Je te gênerai moins dans ta carrière et je serai tout près de toi. Une épouse française, ce n'est plus immoral pour tes flamands. C'est folklorique.
Tu vas pas toujours me reprocher.
Au contraire. Tu m'as changé de province.
Tu es toujours libre, ma chérie.
Libre? Mais nous sommes tous libres, Mathias. Et intelligents et lucides. Tu me fais pitié.
1968, Anouk Aimée et Yves Montand dans Un soir, un train du réalisateur belge André Delvaux, film adapté de la nouvelle de l'écrivain flamand Johan Dane, paru en 1950. Et je vais vous demander votre aide, Christian Schellmann, pour la prononciation. Ça s'appelle Le train de l'inertie, The Train der Trachheit.
The Train der Trachheit.
D'accord.
Il faut le dire avec un bon accent flamand.
Oui, mais vous le faites mieux que moi. Comment, dans ce film, il y a un... On pourrait aussi dire qu'il est sous le signe du réalisme magique. Il y a un climat fantastique, onirique, poétique. On ne sait jamais ce qui est le réel, ce qui est la mise en scène, puisqu'à un moment, la femme d'Yves Montand travaille pour le théâtre et on voit la mort comme un vrai personnage, ouais. Et on pense que c'est la mort en personne qui est là, et le rêve.
Ils sont, enfin, pour résumer le film, ce qui était très difficile à faire, car c'est purement visuel, ils se trouvent comme professeur de français, si je me souviens bien, dans les événements de la séparation de l'université de Louvain. Enfin, les Flamands vont éjecter les francophones hors de cette université. Et puis, il prend un train avec sa femme, avec d'autres gens, et ce train s'arrête sans aucune raison en pleine campagne. Et trois hommes en sortent.
Trois professeurs. La femme a disparu.
Oui.
Le professeur, campé par Yves Montand, n'arrête pas de demander autour de lui, et je vous ai dit que ça reviendrait dans vos remèdes, Christian Schellmann, pourquoi le train s'est-il arrêté? Où sommes-nous? Personne ne lui répond, personne ne sait.
Personne ne sait, en plus ils sont dans un endroit plus désertique que ça. Tu meurs, c'est le cas de le dire d'ailleurs.
Oui, et alors, dans ce film, vous appréciez particulièrement une scène, c'est une scène de danse.
Ouais.
Les trois professeurs sont dans une sorte de bistrot où il y a un orchestre, et puis il y a une blonde sublime, fixe, debout, qui les regarde sans aucune expression sur le visage. Et l'un des professeurs se lève pour aller face à cette femme blonde. Et je vous laisse nous dire ce qui se passe à ce moment-là, Christian Schellmann.
Il danse,
mais d'une façon très particulière.
Oui,
c'est-à-dire qu'au début, on pense qu'elle va le tuer.
Oui, mais il danse de manière... extrêmement étrange, face à face.
Et il se cale sur son pas à elle.
Donc il emprunte son pas.
Ce qui fait accourir une foule.
Il danse en face de la mort, en fait. Hein. Donc ça, on l'apprend après. Et c'est une scène qui m'a marqué. C'est un film qu'on ne trouve pas facilement.
Non, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver.
Oui, j'ai
dû corrompre certaines...
Il faut corrompre.
Oui, il faut corrompre pour avoir
ce
film.
Pour obtenir certains objets magiques, il faut parfois corrompre.
Le directeur de la photographie de ce film, qui signe donc les images, c'est Ghislain Cloquet. Et il s'est inspiré des peintres belges du réalisme fantastique. Ça ne vous étonne absolument pas, Christian Schellmann?
Pas vraiment, on est toujours dans le même sujet.
Et puis il y a aussi cette opposition entre le français et le flamand qui ponctue tout le film.
Oui, parce que ce sont les événements de l'époque, en fait, qui est Leuven Vlaams.
Il y a une tragédie sociale dans la séparation entre les langues en Belgique. Il y a une tragédie amoureuse, comme dans beaucoup de vos remèdes. Je pense à Malpertuis et je pense à Orphée de Cocteau. Ça revient souvent. Et puis, il y a aussi la mort. La mort comme personnage, qui revient dans presque tous vos remèdes, Christian Schellmann.
Oui, je pense que la mort est omniprésente, en fait. Par cette habitude de danser un peu avec elle, finalement.
Vous l'avez, cette habitude? Il
oui,
me semble que vous ne la craignez vraiment
je
pas.
Je ne la crains absolument pas, donc je l'aime sous tous ses aspects. Comment dire? Pas que j'ai envie de la rencontrer le plus tôt possible, hein, loin de là. Mais elle ne m'effraie pas, non. Non, c'est dans cette idée que le temps est une chose ponctuelle, que la mort finit par ne plus être une chose inquiétante.
Je vous ai demandé hors antenne, Christian Schellmann, si vous aviez déjà eu une douleur physique terrible et que que ce soit justement quelque chose de terrible que vous vouliez chasser. Apparemment, vous vous accommodez de tout. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous qui réhabilitez le merveilleux partout, vous vous accommodez assez facilement du réel. Et vous m'avez confié que par votre autre casquette de lutteur, car vous êtes un spécialiste aussi de judo et de lutte, vous aviez eu des blessures terribles.
Oui, non seulement en combat, en judo, en close combat, mais en volant par terre en moto.
Ça ne vous inquiète pas plus que ça?
Ben non, si je peux me relever, c'est que je suis toujours vivant. Hein.
Mais pendant la douleur extrême, que pensez-vous?
Ben, je suis assez résistant à la douleur aussi, donc je ne dis pas que je la supprime, mais j'annule le fait de la subir. Et donc, si je suis par terre parce que j'ai glissé dans un tournant avec ma bécane et que mon épaule s'est déboîtée pour la xème fois, je vais d'abord taper avec mon poing dans l'épaule pour la remettre le plus vite possible en place et puis essayer de rentrer de relever ma moto avec une seule main et puis de rentrer chez moi. Et quand je serai chez moi assis dans un fauteuil, je vais dire oui.
Quand même.
Oui. Bon. Mais je tiendrai jusque-là.
Incroyable. Alors, une béance dans l'espace-temps vient de nous absorber. Dedans, il y a évidemment des vampires, des fantômes, des salsifis. Et quelle surprise, Christian Schellmann, vos antidotes musicaux.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec le mage Christian Schellmann qui vient de nous faire entendre un morceau de 1967 composé par Jacques Brel et son pianiste Gérard Joannest, la chanson des vieux amants.
J'aime bien cette chanson parce qu'elle évoque ma femme et que je sais qu'elle aime énormément cette chanson. Et puis quelque part ma fille aussi, donc qui attend un bébé. Et donc, je suis un peu aussi sous le stress.
Ah, il y a quand même quelque chose qui vous stresse, Christian Schellmann.
J'espère que ça se passera bien pour elle, quoi.
Bah, écoutez, nous aussi.
Voilà.
Alors, ici, je fais un tour de magie radiophonique qui consiste à transférer les auditeurs de Brel à un tandem de 86 sans aucune transition pertinente.
In this proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose.
Remettre la mélancolie chez moi. C'est vraiment le fait d'arrêter un truc est là.
Alors là, c'est un morceau de 86, Peter Gabriel et Kate Bush, Don't Give Up. Ce sont les paroles ou l'air qui vous console, Christian Schellmann?
C'est les deux. D'abord, c'est la voix de Kate Bush et de Peter Gabriel, mais en priorité, peut-être celle de Kate Bush. Et puis, il y a le fait que, c'est, comme je le disais, c'est peut-être... mon seul vrai remède à la mélancolie, parce que quand on a par moment envie de laisser tomber les bras, bien, on recommence.
Mais ça vous est arrivé de vous décourager?
Ça arrive, oui, ça arrive parfois, tout à fait.
Et vous vous remettez toujours à l'ouvrage?
Je me remets à l'ouvrage, mais si j'ai besoin d'un morceau de musique pour remettre à l'ouvrage, c'est celui-là.
Cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
Si tu t'imagines, poème de Raymond Queneau, mis en musique par Joseph Cosma et interprété par Juliette Gréco.
Ah oui, je disais bien que c'est Gréco.
Un morceau dans lequel on entend la traduction de votre credo, Christian Schellmann, Carpe Diem, l'un des derniers vers d'un poème d'Horace qui nous salue en direct de l'an avant Jésus-Christ. C'est une maxime latine qui signifie « cueille le jour », autrement dit « profiter du moment présent ». Êtes-vous capable de cela naturellement ou vous êtes-vous entraîné, Christian Schellmann?
Non, je crois que c'est venu petit à petit, toujours dans cette conception d'un temps ponctuel, en fait, et non linéaire.
Mais quand vous dites « ton temps ponctuel », c'est-à-dire le changement perpétuel que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est-à-dire que le temps est une, pour moi, je le conçois comme un point qui pulse éternellement, mais qui n'a ni passé ni futur. On n'a que la mémoire du passé et l'imaginaire du futur.
Et vous ne vous souciez pas du lendemain ?
Si, dans l'imaginaire du futur, je peux essayer d'aller dans une direction ou l'autre, mais comme tout est en changement perpétuel, c'est l'instant présent qui est le plus important.
Vous ne ressassez jamais le passé, Christian Schellmann?
Non, j'ai des souvenirs agréables, mais je ne ressasse pas le passé. Je n'ai pas de regrets, chaque moment a été vécu pleinement, au moment où il devait être vécu.
La fuite du temps ne vous effraie absolument pas?
Non, du fait que je n'ai pas vraiment une conception du temps, qui est autre qu'un point éternel.
Je vous ai demandé... tout à l'heure, si vous aviez peur de la mort, et vous avez répondu non, Christian Schellmann. Ensuite, je vous ai demandé, est-ce que vous avez peur de la dégradation, de la maladie? Et vous avez aussi répondu non. Dans le bouddhisme, je vous avais dit ça hors antenne, dans le bouddhisme, c'est justement l'impermanence des choses qui est la première source de souffrance pour l'homme. Et vous, c'est justement cette impermanence qui est presque pour vous un support qui ne vous effraie absolument pas.
Ben, c'est-à-dire souffrir, c'est souffrir en imaginant que cette impermanence est liée à un temps qui nous dégrade. Non, il nous change, il nous transforme. Mon esprit est probablement plus riche que ce qu'il était au départ. Et mon corps vieillit tout doucement, bien que il prend un peu trop de poids, mais bon.
Vous n'avez pas de regrets?
Je n'ai pas de regrets.
Aucun?
Non.
Êtes-vous hanté?
Chez moi, oui, avec quand même beaucoup d'objets maléfiques.
Et ça ne vous fait pas peur?
Non, absolument pas.
Christian Schellmann, y a-t-il quelque chose qui vous fait peur?
Non.
je n'y arriverai pas.
Non, j'ai beau réfléchir, qu'est-ce qui me ferait peur? Peut-être la perte des êtres chers. Mais peur, pas vraiment. Triste, oui, certainement. Parce que ça n'empêche pas le sentiment. Mais peur, pas vraiment.
Et vous avez toujours été comme ça? Petit, vous n'aviez pas peur? Vous n'aviez pas des crises de terreur, des cauchemars?
Non, je pense pas.
Bon, j'ai tout essayé.
J'ai tout essayé.
J'abandonne, nous sommes en face de quelqu'un qui va bien, qui aime l'existence et qui s'accommode du réel.
Voilà.
Tout en y apportant et en y intégrant du merveilleux à chaque instant.
Oui, je trouve que le monde manque de magie et donc mon truc a été d'essayer d'en remettre un petit peu dedans.
Eh bien, je vous félicite, Christian Schellmann, et je vous remercie d'être venu dans cette émission partager ces remèdes. Merci beaucoup.
Mais ce fut un plaisir.
Pour les auditeurs belges ou de passage à Bruxelles, vous pouvez contacter notre invité sur le site internet de son muséum d'histoire surnaturelle, surnateum.com. La programmation musicale, les remèdes évoqués sont sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a encore plus d'enthousiasme qu'une racine carrée de flocons. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.